Chronique du dessin, roman graphique. Bonjour à toutes et à tous. Trois romans graphiques aujourd'hui pour parler de l'hyperréalisme en bande dessinée. Commençons par La guerre des Amazones, mis en image par Guillermo G. Escalada et scénarisé par Stéphane Piatchek. Le récit. Croc est roi de Bohême, il se prépare à affronter le fils de Charlemagne, Karl. Il cède la charge du royaume à la plus sage de ses filles, Libusa. La jeune reine entre en résistance, guidée par les puissantes visions de sa sœur Theta, soutenue par la détermination des femmes restées au château et par le courage de ses guerrières, dont l'une la trouble profondément, Vlasta, aux longs cheveux blancs. C'est une façon de redonner une place aux femmes dans les récits médiévaux et l'homosexualité affichée de Theta et de Vlasta fonctionne effectivement, trouve une place. Il y a une résistance à la christianisation, une résistance contre l'Empire, mais on a quand même rapidement du mal à savoir qui est qui. Il y a dans ce réalisme, dans cet hyperréalisme, une sorte d'esbrouf graphique en affichant une virtuosité, alors que la mise en scène va se relever beaucoup plus compliquée, avec une fragmentation des cases qui ne facilite pas la lecture. Il n'y a pas d'émotion supplémentaire apportée par cet hyperréalisme. Au contraire, on est dans un dessin contre-productif qui trouble la lecture au lieu de l'intensifier. La guerre des Amazones de Guillermo G. Escalada et Stéphane Piatchek est publiée par les éditions Soleil dans la collection Quadrant. Et les 56 pages de ce roman graphique sont au prix de 15,50 €. Et le livre a été édité en Belgique. Poursuivons avec L'orateur. C'est aussi un dessin hyperréaliste, comme la couverture va l'afficher. Il est scénarisé par David Goy et Luca Blengino, et mis en image par Antonio Palma, un peintre qui va, dans la bande dessinée, utiliser cette écriture dessinée hyper réaliste. Nous sommes dans la Rome du IIe siècle après Jésus-Christ. Édilus, le médecin le plus respecté de la communauté grecque de Rome, vient d'être sauvagement assassiné. Son fils Alexandre, que le vieux médecin comptait à minima déshériter, est déjà désigné coupable. Un procès expéditif attend donc ce garçon, selon les lois romaines. Alors il va avoir un défenseur, en la personne de Marcus Cornelius Florence, l'orateur, qui va au forum défendre le fils d'Édilus. Il va devoir enquêter pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, persuader l'innocence de ce jeune homme. Alors, il y a un polar historique qui est vraiment ancré donc dans cette romantique et qui fonctionne très bien. Il y a une intrigue solide avec une documentation suffisamment précise qui permet de voir comment fonctionne la justice à Rome et quelles sont ses lois romaines. Et puis il y a ce dessin qui, là aussi, montre une virtuosité continuelle avec ce modelé des personnages, des visages, des expressions qu'on essaye de faire varier avec une palette d'expressions la plus large possible. Et puis ce travail sur les architectures, les lumières. Et c'est vraiment de la virtuosité qui s'étale de page en page. Au niveau de la lecture, on a le même souci qu'avec la guerre des Amazones, c'est cette fragmentation du nombre de cases où elles vont finalement être très réduites avec quand même un dialogue important. Et là aussi, c'est vraiment contre-productif parce que le lecteur n'est pas dans cette relation intense au récit. On est toujours en train d'évaluer la virtuosité de telle ou telle case, de regretter la petitesse ou le caractère un peu alambiqué de certaines pages. Et là aussi, on a un peu plus de mal. Le récit étant suffisamment précis, fort, intense, on va jusqu'au bout du livre. Par contre, le dessin ne remplit pas pleinement sa fonction d'être au service du récit. En bande dessinée, lorsqu'on a un beau dessin avec une mauvaise histoire, on ne finit pas l'histoire. Et lorsqu'on a un très bon scénario avec effectivement une mise en image qui n'est pas en lien, en résonance avec ce récit, on finit quand même l'histoire. L'orateur a été mis en image par Antonio Palma et scénarisé par David Goy et Luca Blengino. C'est publié par les éditions Glénat. Les 80 pages de ce récit sont au prix de 17 euros. Le livre a été imprimé en Belgique. Poursuivons avec Den de Richard Corben, dont l'édition augmentée vient d'être publiée par les éditions Delirium. Alors, le livre était épuisé depuis plus de 20 ans, et comme le dit Mike Mignola dans sa préface, Corben est Den, pour montrer à quel point cette œuvre est emblématique de l'œuvre du dessinateur et auteur américain. Pour resituer le contexte, Den n'est pas une œuvre de commande, c'est une œuvre au long cours que Corben va réaliser entre 1973 et 1978. Par ailleurs, il va être réalisateur et dessinateur pour l'animation. Il va faire aussi des planches de comics. Il sera plus indépendant avec la société qu'il a créée avec sa femme, Fantagore Press, mais qui devra arrêter quelques années plus tard. En 1976, moment de la parution du livre, les comics de super-héros envahissent et les librairies et les tabacs pressent, et il y a une censure assez importante, et donc ces super-héros sont en combinaison moulante et super slip, mais il y a très peu de place à la nudité. En France, quand Metal Hurlant va publier en 1975 la première partie de Den, le succès de Richard Corben va devenir international. Corben a été nourri avec la littérature fantastique et l'heroic fantasy. Et Den est un récit post-apocalyptique. Le personnage se retrouve dans un monde désertique avec de nombreuses ruines, grâce à un passage dans une faille temporelle. Il est nu dans des paysages désolés, il va rencontrer une femme, Kate, qui est nue aussi, et on va être ainsi complètement en décalage avec l'atmosphère qu'il y avait dans les comics de super-héros de l'époque. Den va affronter les despotes autoproclamés et leur spiritualité de pacotille, et le dessin réaliste va pleinement fonctionner parce qu'on est dans un univers complètement imaginaire et dont les liens avec la réalité va se faire plutôt sur quelques éléments de scénario comme ces petits despotes qui vont essayer de contraindre et de soumettre Den. Mais ce qui est remarquable dans cette édition, c'est qu'on a pleinement le travail de la mise en couleur de Richard Corben qui est restitué. Richard Corben est un dessinateur qui a mis au point des techniques particulières, personnelles, pour avoir une attention beaucoup plus précise sur sa mise en couleur, travailler ainsi de nombreux effets sans qu'on ait la lourdeur de l'aéro, et puis en pouvant juxtaposer des couleurs plutôt inhabituelles. Et même si les pages du début sont moins précises, parce que l'auteur a beaucoup évolué sur la durée pendant laquelle a été réalisé Den, la mise en couleur trouve toute son ampleur et fait vraiment de Den une œuvre à part, remarquable, un des chefs-d'œuvre de l'heroic fantasy. Den de Richard Corben est traduit par Doug Hedline. Cette édition augmentée est de 168 pages au prix de 25 €. C'est publié par les éditions Delirium. Nous finissons en musique avec le Crosswind de Bill Cobham.